Il m'a dit de ne pas parler de date. On va parler du sujet premier qui est l'âme. Mais comment voulez-vous que devant des communistes athées, on parle de l'âme dans 10 ans? On ne pourra plus en parler. Ce que Bernard va dire ce soir est enregistré. Entre vous et moi, on pourra garder les cassettes. Ça sera... C'est facile à détruire une cassette. Hein? Vous passez ça à côté d'un haut-parleur de stéréo, là en arrière, elle s'efface instantanément. Prenez un livre, mettez-le dans le feu. Puis si vous n'avez pas de foyer, ben si le livre est en train de brûler puis qu'il y a des gars qui rentrent chez vous, ils voient les livres que vous possédez, vous venez d'y goûter. Hein? Alors, des cassettes, ça peut toujours se transformer facilement, ça se copie, on fait ce qu'on veut avec des cassettes. Alors, c'est un but bien précis. Si on parle d'ésotérisme, puis qu'on pense que de l'ésotérisme, c'est bon pour rêver, il y en a qui ont d'autres moyens pour rêver. Moi, je ne l'ai jamais fait dans un but d'impressionner les gens, de créer une nouvelle religion ou de faire de l'argent. Je l'ai fait dans un but bien simple, c'est que je vis au Québec, et j'ai confiance d'une chose, c'est qu'une fois qu'on est mort, tout le monde, moi aussi, puis tout le monde, on va mourir, on va vivre de notre âme, de notre esprit, on va tous se retrouver, on va tous se reconnaître. Malheur à ceux qui auront été tièdes, ou ceux qui en ont été froids. Il faut agir, il faut être convaincu de ses convictions, il faut transmettre ses convictions. Mais après, on va se retrouver, puis on va faire partie de quelque chose de très beau. Alors que les autres continueront, parce que la destruction entraîne la destruction. La haine entraîne la haine. L'amour entraîne l'amour. On juge l'arbre d'après ses fruits. Alors, c'est un long préambule, parce que c'est une soirée un peu spéciale qui s'en vient ce soir. On ne parlera pas de guerre nécessairement. Non. On va parler d'ésotérisme. On va parler de toutes sortes de notions au-delà des formes. En dehors des religions, en dehors de la politique. Mais c'est pour ça, essentiellement, qu'on a des rencontres ici au Québec. On est en avance sur bien des peuples. Alors, on est privilégiés. Alors, j'espère que vous allez apprécier la soirée quand même. S'il n'y a pas la période de questions, vous pouviez partager un petit peu avec Bernard. Il y a beaucoup de choses à nous dire ce soir. Alors, on commence. Bernard de Montréal. Et on est au début de 1981, et on est à la dernière conférence de 1981, que cette année, il fallait qu'on se parle, c'était fini de dire des choses seulement en surface. Que le sujet de la conférence de ce soir, c'est l'âme. Et le mois dernier, dans la conférence du mois dernier, vous nous avez presque laissé entendre que même l'âme est une forme dont l'être humain doit se départir. De toutes les formes, l'être humain doit se départir. Évidemment, ma question va venir à celle-ci. Qu'est-ce qui va rester? L'être humain va-t-il rester au bout de tout ça, puisque même l'être humain est une forme? Alors, qu'est-ce que l'âme? Et puisque nous, en religion, on a toujours dit que c'était le souffle divin, la monade, et si on doit s'en départir, qu'est-ce qui reste?
Bon. Alors, pour j'ai l'intention ce soir d'aller un peu plus loin dans le domaine de l'explication de ce qu'on appelle l'âme. Et je voudrais que les gens suivent ma pensée dans ce sens que je voudrais que les gens mettent de côté leur conception traditionnelle de l'âme pour simplement écouter une version plus contemporaine, une version plus adaptée. Une version qui convient à l'esprit de l'homme du 20e siècle et non à l'esprit de l'homme d'il y a 2000 ans ou 3000 ans ou 4000 ans. Lorsque nous parlons des formes, lorsque nous parlons de la destruction, de la nécessité de destruction des formes, nous ne parlons pas nécessairement de la destruction des formes matérielles. Nous parlons de ces conditions psychologiques de l'homme qui affectent son intellect et son émotif et qui empêche l'homme de comprendre les mystères de l'intelligence, les mystères de l'évolution, les mystères de tout. Alors, ce sont ces formes-là, ce sont ces pensées, et ce sont ces émotions que j'appelle des formes, qui sont les forces dans l'homme, qui conviennent à l'ego, qui sécurisent l'ego, et qui empêchent l'homme d'avoir accès à l'intelligence pure qui est en lui, et de forcer cet homme, à cause du fait qu'il est encore au stade de la pensée personnelle, de subir l'influence émotive de ses formes sur son intellect et sur son émotif. Alors, pour expliquer le phénomène de l'âme dans un contexte plus vaste que celui qui nous est décrit par les religions ou par les philosophies ésotériques, il est bien évident que l'homme doit avoir accès à une intelligence qui n'est pas la sienne, une intelligence qui est au-dessus de lui, au-delà de lui, qui n'est pas conditionnée à son émotivité et à son intellect. Et c'est ce genre d'intelligence qui permet à l'homme de comprendre les mystères de l'évolution à tous les niveaux de l'univers et de commencer à réorganiser dans son mental et dans son état émotif, dans son ego, le matériel énergétique qui constitue sa conscience pour élever la vibration de cette conscience pour éventuellement pouvoir être en intelligence universelle avec les autres intelligences qui sont en dehors du plan matériel. Alors ça, c'est le fond, bref, de la condition permettant à l'homme de comprendre le phénomène de l'âme. Une autre condition, c'est celle-ci, c'est que tous les concepts qui sont rattachés à la philosophie spirituelle ou religieuse ou ésotérique de l'humanité sont des concepts qui ont convenu dans le passé à l'homme, qui ont été transmis à l'homme, mais ce n'est pas parce que une forme, un concept a été transmis à l'homme il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, qu'il convient à l'homme moderne. Et lorsque je dis qu'un concept ancien qui cache automatiquement un voile, qui ne permet pas à l'homme, parce que l'homme dans ce temps-là n'était pas prêt, ses corps n'étant pas totalement constitués, ce n'est pas parce qu'un concept dans la tradition, aussi important que le concept de l'âme, a été donné à l'homme, que l'homme du 20e siècle doit absorber dans son mental et dans son émotif toute la couleur de son concept et en faire une forme qui abrutit son intelligence au lieu de la faire exploser sur des plans supérieurs auxquels il a accès. Et mon but dans le public, c'est justement d'élever la vibration de la forme, de transformer la forme, de lui donner une pulsation qui la libère des tentacules de l'émotion humaine et de l'intelligence humaine, afin que l'homme puisse, une fois pour toutes, commencer à percevoir l'intelligence qui a donné l'essence à la forme et comprendre pourquoi l'intelligence au-dessus de l'homme a donné à l'homme telle forme et telle forme pour son évolution essentielle au cours de l'évolution. Et maintenant que l'homme est arrivé à la fin du 20e siècle et que l'homme se prépare à une évolution qui est totalement autre, c'est-à-dire différente de l'ancienne évolution, dans ce sens que l'homme doit développer un autre niveau d'intelligence au-dessus du rationnel pour comprendre sa position dans l'univers et pour comprendre sa relation avec l'évolution et pour comprendre les mystères de la vie sur les autres plans comme sur le plan matériel. Il est évident que l'homme du 20e siècle ne peut plus se suffire, ne peut plus simplement gober des formes telles qu'elles lui ont été données par la tradition, mais doit et devra, dans le temps, être capable de voir, de par sa propre intelligence, la fonction de ces formes et en interpréter le message selon les lois de l'intelligence cosmique et non plus selon les lois rationnelles de la philosophie, de la métaphysique ou de l'ésotérisme subjectif humain. Alors, je commence. Ce que nous appelons l'âme, c'est une mémoire. L'âme est une mémoire. Et au cours de l'évolution, les hommes sont nés, les hommes sont morts, les hommes ont vécu différentes expériences. Et ces expériences ont été enregistrées dans la mémoire de l'âme. Et au cours de l'évolution de cette âme, les égos qui se sont incarnés ont continué à vibrer de cette mémoire de l'âme.
Est-ce que l'âme est une âme collective ou une âme pour chaque individu?
L'âme de l'homme est une âme individuelle, mais l'âme de l'homme est liée à un nombre innombrable d'âmes qui constituent une conscience cosmique. Mais l'âme de l'homme est une conscience individuelle, est une mémoire individuelle, et les hommes, au cours de l'évolution, puise dans la mémoire de cette âme l'énergie qui a été enregistrée au cours des expériences égoïques antérieures, et c'est pour ça que lorsque nous venons sur la Terre dans une incarnation, nous avons un certain tempérament et nous avons un certain caractère qui fait partie de cette mémoire de l'âme.
Donc, chaque être humain a une âme au moment où il se manifeste par son égo.
C'est juste. Chaque être humain appartient à une mémoire individuelle. Mais je vous demanderais de ne pas me demander des questions pendant un certain moment pour que je puisse aller dans la vibration lentement de cette réalité qui n'est pas saisissable par l'intellect, mais que nous pouvons saisir simplement par la vibration de l'intelligence en soi. Et ensuite, nous pourrons réajuster les aspects qui demandent une clarification. Alors, l'âme étant une mémoire, l'homme qui vient sur la terre, qui s'incarne, est assujetti à cette mémoire. Et étant assujetti à cette mémoire, parce que tout est énergie, et étant assujetti à cette mémoire, son émotionnel, son principe émotif, et son principe mental inférieur est lié à cette mémoire. Et l'homme, à cause de cette liaison avec la mémoire de l'âme, n'est pas capable, de par lui-même, d'être, de vivre de l'intelligence pure. Il vit de la mémoire de l'âme. Autrement dit, la mémoire de l'âme sert à maintenir l'ego de l'homme dans l'inconscience, c'est-à-dire dans cette expérience mentale et émotive, en conjonction avec l'expérience matérielle, afin que cette mémoire, cette âme, devienne de plus en plus évoluée, c'est-à-dire qu'elle accumule de plus en plus de cette énergie qu'on appelle la mémoire. Autrement dit, tant que l'homme est en évolution et qu'il est lié à la mémoire de l'âme, l'ego de l'homme ne vit que ce qu'il appelle un libre arbitre. Et le libre arbitre de l'ego est une illusion de l'ego qui provient du fait que il lui est donné de penser selon la mémoire de l'âme auquel il est rattaché, de penser qu'il est un être libre. Lorsqu'en fait, il n'est pas un être libre, lorsqu'en fait, il ne fait qu'exécuter sur le plan matériel, par le biais de l'énergie qui le rattache à l'âme, la programmation de l'âme sur son mental et sur son émotif. Et ça, on appelle ça un libre arbitre. Et lorsque l'âme décide que l'homme doit retourner
C'est-à-dire que l'homme doit mourir, le cordon entre l'homme et l'âme est rompu, les corps se séparent et la conscience humaine revient à la conscience astrale. Et ça, c'est une insulte pour l'homme. Que l'homme soit prisonnier de son âme, c'est une insulte pour l'intelligence cosmique dans l'homme. Parce que l'intelligence cosmique est une énergie qui est universelle et qui pénètre tous les plans de la création et qui, un jour, doit être utilisée consciemment, volontairement par l'homme. Et l'homme sur la Terre est incapable de se servir de cette énergie parce que l'énergie dont il se sert pour vivre, c'est l'énergie de l'âme, autrement dit, la mémoire de l'âme. Il est évident que l'homme ne peut pas penser à ce que c'est que de l'âme, parce que on ne peut pas penser impossiblement lorsque l'on pense. Et l'homme ne pouvant pas penser impossiblement, c'est-à-dire ne pouvant pas recevoir de l'énergie, de l'intelligence au-delà de la mémoire de l'âme, est toujours prisonnier des impressions mentales et émotives qui sont enregistrées dans l'âme et n'est jamais capable de sortir de ce cercle vicieux qui est le lien entre l'homme et l'âme. De sorte que l'homme, dans le mouvement de l'évolution, a été utilisé sur le plan égoïque par cette mémoire, et l'homme qui ira vers l'évolution sera obligé de détruire cette mémoire. Il sera obligé de détruire le pouvoir de l'âme sur son mental et sur son émotif pour incorporer l'énergie de la mémoire dans ses principes pour qu'un jour il puisse se servir de l'intelligence et de la volonté cosmique à volonté et automatiquement pouvoir utiliser cette énergie de l'âme qui est extraordinaire et se libérer de la prison de la matière et se libérer de la mémoire de l'âme et se libérer des influences extérieures et se libérer du karma de l'homme individuel et se libérer du karma mondial de l'homme et se libérer de tout, autrement dit, d'être libre. Et lorsque l'homme aura été capable d'avoir neutralisé la mémoire de l'âme en lui, automatiquement, il se créera en lui un nouveau plan d'intelligence. Un plan d'intelligence qui ne sera pas conditionné par les vies antérieures de l'homme, mémorisé dans l'âme et énergisé dans son mental et dans son émotion, mais un plan d'énergie qu'on appelle le supramental, si vous voulez, qui convient à la connexion cosmique entre l'homme, cette unité biopensante, et le rayon cosmique, autrement dit, ces aspects des intelligences qui sont dans des mondes supérieurs et qui se servent du plan mental, supramental de l'homme pour communiquer avec lui ce qu'ils savent, autrement dit, ce qu'ils sont, autrement dit, de l'intelligence pure. L'homme sera libre parce que l'homme ne pourra plus être assujetti à l'âme et automatiquement. N'étant plus assujetti à l'âme, il aura le pouvoir sur la matière parce qu'il aura été capable de faire descendre en lui l'énergie ultime qui est dans l'âme, mais qui ne lui a jamais servi. L'âme n'a jamais servi à l'homme. L'homme a servi à l'âme. L'homme est devenu esclave de l'âme. L'homme a vécu pour l'évolution de son âme. L'homme a été prisonnier de l'évolution spirituelle de son âme. Mais qu'est-ce que l'âme a fait pour l'homme? Rien. Parce que l'âme ne peut rien faire pour l'homme. L'âme, c'est simplement une banque extraordinaire qui accumule tous les crédits ou tous les débits de l'expérience humaine pour la création dans d'autres plans de certains modèles qui permettront dans le futur à ce que certains égaux puissent coordonner cette mémoire avec des incarnations selon un développement plus ou moins développé d'un corps mental ou d'un corps émotionnel ou d'un corps vital. Autrement dit, l'âme ne sert pas l'homme, l'âme a servi à l'involution de l'homme. Dans le cycle qui vient, l'âme devra servir l'homme et la polarité entre l'homme et l'âme devra être totalement renversée, de sorte que l'homme ne sera plus prisonnier des influences planétaires, ne sera plus prisonnier du passé, ne sera plus prisonnier de la mémoire de l'âme et n'étant plus prisonnier de la mémoire de l'âme, il n'aura plus besoin de penser pour savoir. La raison pour laquelle l'homme pense, c'est parce que le phénomène de la pensée est un phénomène qui permet à l'intellect de l'homme, ou à cet aspect inférieur de l'intelligence humaine, de se servir constamment de la mémoire ou du matériel enregistré en lui. Mais l'homme, tant qu'il est prisonnier de cette mémoire, n'est pas capable de penser autre chose que ce qu'il a su. Et le fait que l'homme n'est pas capable de penser autre chose que ce qu'il a su, l'homme vit constamment dans le passé. Et vivant constamment dans le passé, il vit constamment dans l'impotence vibratoire de son intelligence et de sa volonté et de son amour cosmique qui est en lui, en tant que principe, mais situé, intégré dans le supramental. Autrement dit, l'homme est ignorant totalement et parfaitement, quel que soit son niveau d'éducation intellectuelle, parce que son niveau d'éducation intellectuelle fait partie de la même, du même aspect, de la même habitude qu'ont tous les hommes de la Terre de se servir du matériel de la mémoire pour savoir quelque chose. Et on ne peut pas savoir quelque chose par la mémoire. Pour savoir quelque chose, il faut détruire la mémoire pour que nous puissions, en tant qu'hommes, vibrer dans l'énergie de l'intelligence qui est sur le au niveau du supramental et qui nous permet dans l'avenir de tout comprendre, de tout savoir et de tout réaliser sans aucun effort. Ça, c'est un aspect de l'âme. L'autre aspect de l'âme, et je demande aux gens de ne pas, tant que je serai dans le public, de ne jamais s'occuper des mots. De ne jamais s'attacher aux mots, parce que ce sont les mots auxquels on s'attache qui font vibrer notre mémoire et qui nous gardent dans l'ignorance. Alors, si nous parlons de quelque chose, même si je dois, pour des raisons quelconques, pénétrer quelque peu ou quelque soit peu dans les mystères de l'évolution ou dans le secret des mystères de l'évolution, je dois être capable de m'adresser à un public qui est suffisamment mûr, qui n'essaie pas de s'emprisonner émotivement dans des mots, parce que tous les mots, je dois, pour les raisons de ce que je fais, en ouvrir les formes, en donner une extension dans le mental de l'humanité pour que l'homme puisse commencer à vivre de son énergie. Alors, si je parle de certaines formes que nous considérons des formes du sacré ou des formes qui n'ont jamais été bousculées dans le passé, le temps vient pour que ces formes soient bousculées, que l'énergie de ces formes soit explosée et pour que l'homme ait finalement enfin accès à de l'information qui est réelle et qui est consistant avec les réalités, qui est en dehors de la mémoire de l'âme, afin que l'homme commence à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de la Terre, comme qu'est-ce qui se passe dans la vie de la lumière de la Terre, auquel il aura accès après les événements de fin de cycle. Alors, je commence avec ceci. Je dis que l'âme de l'homme, elle est individuelle. Et je dis que toutes les âmes des hommes sont reliées les unes aux autres et forment une quantité extraordinaire d'énergie qu'on appelle, et qu'on ne comprend pas, dans le monde occidental, le principe luciférien. Le principe luciférien étant ce principe qui permet que toutes les formes, que toutes les expériences de vie matérielle, végétale, animale, humaine, inconsciente, autrement dit, incapable de se saturer de l'énergie cosmique de par leur propre volition parce qu'elles n'ont pas atteint un degré d'évolution supérieur, toutes ces formes crée ce qu'on appelle une mémoire universelle, une mémoire cosmique, et cette mémoire cosmique fait partie d'une intelligence qu'on appelle l'intelligence du principe luciférien, et cette intelligence qui est le principe luciférien est une intelligence cosmique qui a sa fonction intégrale, qui a son but intégral, qui est normal et normalisant dans l'évolution de l'univers et qui n'a rien à faire avec le mal planétaire de l'homme. Autrement dit, cette fonction de l'intelligence cosmique émanant du principe luciférien est une fonction créative qui a permis que l'homme aujourd'hui soit sur la Terre et qui a permis que des systèmes en évolution dans les temps existent pour l'évolution. Alors, il est temps que l'homme commence à se désengager de sa petitesse d'esprit et de sa moralité enfantine et commence à regarder les grands principes de l'évolution ou les grands principes orthodoxes de l'ésotérisme ou de la religion ou de la métaphysique d'une façon totalement mentale, à froid, s'il veut comprendre et s'il veut connaître une fois pour toutes qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une planète. Alors, le principe luciférien est la totalité de toutes les âmes en évolution. Alors, ce qu'on appelle Lucifer est la totalité de ces âmes, et plus ces âmes accumulent d'expérience, plus la force de ce principe devient puissante dans les univers, et plus il y a, dans les univers, à toutes les échelles de l'évolution, des capacités d'évolution créative qui permettent que se constituent, sur le plan matériel ou dans des conditions invisibles, des véhicules d'expression pour l'intelligence cosmique future. Autrement dit, Lucifer, le principe luciférien, pas Lucifer, parce que Lucifer, ça n'existe pas, mais le principe luciférien existe afin qu'il puisse se construire dans les temps énorme de l'évolution, des conditions futures pour l'évolution. Si le principe luciférien n'avait pas existé, il aurait été impossible pour l'homme d'exister. Alors, le principe luciférien existe, le principe luciférien avance et avance dans le temps, et il avance avec l'accumulation de toutes les différentes sortes d'expériences sur tous les plans, dont l'homme en est une, et dont les expériences sont rapportées à la mémoire qu'on appelle l'âme. Autrement dit, ce qu'on appelle le principe luciférien dans le cosmos, c'est la totalité des âmes en évolution dans le cosmos qui servent à maintenir sur les unités en évolution, les unités soit animales, qui ont une âme collective, ou sur les unités humaines, comme l'homme ou dans d'autres systèmes, une puissance vibratoire permettant que, avec le temps, le corps matériel, le corps vital, le corps émotionnel et le corps mental se développent pour qu'il ait dans le temps une suffisance, c'est-à-dire une résistance, c'est-à-dire une capacité, permettant plus tard dans le temps qu'un autre plan s'ouvre à l'homme et que cette fois, l'homme ou ses entités puissent recevoir cette énergie indifférenciée qu'on appelle l'énergie cosmique, qui est de l'intelligence, qui est de la volonté, qui est de l'amour, et qui puisse alimenter l'homme et que l'homme, à ce moment-là, puisse se servir d'une façon intégrale et libre et parfaite de ces trois principes pour créer, sur une planète ou sur une autre, des conditions d'évolution qui seront totalement libérées, qui seront totalement indépendantes de l'âme, autrement dit, du principe luciférien. Alors, c'est ça, en bref, la nature des choses concernant le phénomène de l'âme et le phénomène du principe luciférien. Bon, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est celle-ci. L'homme, maintenant, entre dans un nouveau cycle. C'est-à-dire que l'homme qui vient, 21e siècle, 22e siècle, 23e siècle, la fin du cycle, l'homme subira une mutation. Alors, lorsque l'homme subit une mutation, lorsque la matière subit une mutation, lorsqu'elle passe du minéral, elle passe au végétal, du végétal à l'homme, à l'animal, de l'animal à l'homme, et de l'homme au surhomme. Alors, le surhomme, c'est une mutation de l'homme ancien. Et cette mutation ne se fera pas sur le plan biologique, elle se fera sur le plan vibratoire du supramental. Parce que l'homme, matériellement, physiquement, vitalement, émotivement et mentalement, est suffisamment et très bien développé. L'homme est prêt à la mutation. Et la mutation se fera que l'homme le veuille ou que l'homme ne veuille pas. Et l'homme qui doit être muté le sera, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Elle doit se faire parce que elle fait partie de la programmation de l'évolution, elle fait partie de la programmation de l'évolution de la Terre et du cosmos. Et l'homme sur la Terre doit devenir un jour maître de la vie, il doit devenir un jour suffisamment intelligent pour pouvoir converser à pied égal avec des intelligences intelligence, qui ont sur lui une très grande avance dans la science, que mon cher ami Glenn appelle les extraterrestres. Mais ça, ça va encore plus loin que ça. Mais, ça c'est la deuxième étape. Alors, dans le cycle qui vient, la mutation sera quoi? La mutation sera une vibration de l'intelligence cosmique, de cette énergie cosmique qui pénétrera dans l'homme et qui, pour s'établir dans le mental supérieur, pour créer dans l'homme le mental supérieur, devra transformer, détruire les formes dans les motifs de l'homme et dans le mental inférieur de l'homme pour que l'homme commence à perdre la mémoire. Et les premiers signes de cette pénétration de l'énergie cosmique dans l'homme, ce sera la perte de la mémoire subjective de l'individu. Et ça, au début, ça créera un choc à l'ego, ça lui créera une certaine décontenance, mais ça, c'est normal, parce que l'ego est rattaché à son âme, c'est-à-dire que l'ego est rattaché à sa mémoire, et sa mémoire fait partie de son âme, mais l'ego ne comprenant pas les lois de la mémoire, ne connaissant pas et ne comprenant pas les lois de l'âme, et automatiquement, se sent automatiquement appauvri en lui-même lorsqu'il se passe ce phénomène. Mais ça, ça fait partie de son expérience. Alors, cette énergie, en neutralisant, en bousculant, en éliminant dans l'homme la forme qui contient la mémoire en lui, au niveau mental et au niveau émotionnel, et qui le rattache à l'âme, l'énergie cosmique permettra éventuellement que l'homme puisse intégrer une fois pour toutes son âme à lui. C'est-à-dire que l'homme ne vivra plus dans les mémoires de l'âme, il ne vivra plus dans le passé vibratoire énergétique de son mental et de son émotion, mais l'homme vivra dans le présent de sa conscience cosmique, c'est-à-dire dans le présent de la vibration du rayon en lui qui agitera tous ses centres, qui se servira de ses centres pour pénétrer en lui et activer sur la Terre une nouvelle conscience planétaire. Mais la condition pour ceci, c'est que la mémoire de l'âme soit de plus en plus affaiblie jusqu'au jour où l'homme ne vivra plus de sa mémoire. Et lorsque l'homme ne vivra plus de sa mémoire, l'homme ne vivra que d'intelligence. C'est-à-dire que l'homme saura parfaitement où il va, d'où il vient, ce qu'il doit faire. L'homme sera ajusté vibratoirement dans le mental, dans l'émotionnel, dans le vital, dans le physique. Et lorsque le temps sera venu, lorsque ce sera le temps, non pas le temps de l'homme, mais le temps de l'énergie, le temps de l'évolution, lorsque la grande mutation se fera sur la Terre, l'homme sera prêt et passera naturellement, facilement, sans heurts et sans commotion. D'un plan vibratoire à un autre, ce qu'on appelle l'éther, où se situe la Jérusalem. Alors, c'est très important pour l'homme de la fin du 20e siècle de comprendre et de reconnaître une fois pour toutes que ce qu'il a connu dans le passé, ce qui a été institué dans le passé, a été bon, a été grand, a été nécessaire et faisait partie du fruit du labeur de ceux qui travaillaient à l'évolution. Mais que, lorsque l'on passe de l'âge de 7 ans, on arrive à 14, et de 14 à 21, et de 21 à 30, et ainsi de suite. Mais l'humanité, elle est stupide, parce que l'humanité pense, et l'humanité étant une humanité pensante, est incapable de réaliser que le statu quo n'existe pas dans l'univers, que le statu quo n'existe pas dans la pensée, que le statu quo n'existe pas dans la forme de pensée, que le statu quo n'existe pas dans la façon de voir les choses. Et l'homme, un jour, devra réaliser, quelle que soit son émotion, et quelles que soient ses attitudes mentales, quelles que soient ses philosophies, quels que soient ses attachements à sa mémoire, qui le sécurise dans une pauvreté de l'intelligence et une incapacité de son esprit, il devra réaliser, l'homme, qu'un jour, il doit couper complètement les cordons ombilicaux avec le passé de ses mémoires pour rentrer dans l'infinité de l'intelligence. Et ça, c'est une loi cosmique, et que l'homme le veuille, que l'homme le rejette, que l'homme le comprenne ou qu'il ne le comprenne pas, ça n'a aucune importance parce que l'évolution se fait, le cycle change, et lorsque le cycle change, l'énergie, c'est l'énergie de la planète, c'est l'énergie de l'univers qui prend en jeu l'évolution, et c'est ça qu'on appelle un cycle nouveau. Ça s'est produit durant la période des Atlantes, ça s'est produit durant la Lémurie, ça se produira dans le temps qui vient par le feu, et ça se produira au cours de la septième race humaine. Alors, l'homme doit commencer à être mûr et commencer à regarder en dedans de lui-même s'il n'y a pas trop de blocage en lui, sur le plan de sa spiritualité, de son orgueil, de tous les aspects de la forme qui font partie de la mémoire de l'âme, et qu'un jour, s'il doit entrer dans son intelligence qui est universelle, s'il doit entrer dans cette intelligence et s'il peut entrer dans cette intelligence. Mais pour le faire, pour le vivre, il y a des conditions, et ces conditions sont marquées dans tous les hommes qui passeront d'un plan à un autre. Alors, l'âme. L'homme doit réaliser que l'âme a été, dans le passé, essentielle à l'évolution. Elle a été essentielle à l'expérience humaine, et elle a accumulé énormément d'informations au cours de l'évolution, mais que maintenant, à la fin du 20e siècle, la polarité doit être renversée et l'ego ne peut plus être asservi à l'âme. Et pour que l'ego cesse d'être asservi à l'âme, l'ego doit commencer petit à petit à sentir en lui l'intelligence. Et je vous assure qu'il y a de l'intelligence dans l'ego. Il y a de l'intelligence dans l'homme, mais il y a tellement de mémoire dans l'homme, calqué sur la fabrication de ses émotions, calqué sur la fabrication de son intellect, que cette intelligence ne réussit pas à passer. Et c'est pourquoi l'homme est incapable de savoir ce que je dis aujourd'hui et que tous les hommes devraient savoir et que tous les hommes devraient pouvoir avoir accès. Alors, le phénomène de l'âme, c'est un phénomène grandiose, c'est un phénomène extraordinaire, mais les lois de l'âme doivent être comprises par l'homme, et les lois de l'âme ne peuvent pas être comprises par l'homme selon les lois de la tradition. La tradition est impuissante à expliquer à l'homme les lois de l'âme, parce que la tradition fait partie de l'expérience de l'âme, et non de la conscience cosmique. Et la conscience cosmique est une dimension de l'énergie dans l'univers qui ne contient aucunement de rapport, qui n'a aucun rapport avec le passé, parce que la conscience cosmique, elle évolue, elle programme, elle intercepte et elle organise l'énergie de l'atome dans le présent des plans de l'évolution et non dans les conséquences émotionnelles ou mentales ou intellectuelles des races en évolution. Et lorsque l'homme commencera à comprendre ceci, l'homme commencera à comprendre qu'est-ce que c'est la conscience cosmique et commencera à réaliser que la conscience cosmique, ce n'est pas de la spiritualité. J'arrête pour quelques minutes, ensuite on continue.
L'impression que j'en ai, c'est que lorsqu'on veut faire quelque chose, on le transforme, on ne crée pas, mais on utilise la mémoire des choses, un bloc que je mets là-dessus, sur un autre. J'utilise des lois qui existent dans le passé, de la gravitation, de l'attraction, etc. Il n'y a pas de création par là, il y a toujours une transformation, et dans l'être humain, il y a toujours une réaction au lieu d'une action vive. Mais alors là, j'aimerais que vous puissiez nous définir un peu ce qu'est l'ego, parce que vous nous parlez de l'âme. L'âme semble toujours demeurer, cette mémoire semble persister à travers les incarnations des différents égos. Mais alors l'ego, c'est ça qui doit se raccrocher à l'intelligence cosmique, mais ce ça a l'air d'apparaître et de disparaître.
Bon. Souvent, pour expliquer d'une façon rapide ou d'une façon bref à l'homme le phénomène de l'ego, on dit « l'ego doit être dépassé, l'ego doit être neutralisé ». Ce n'est pas ceci que nous voulons dire. C'est très important que l'homme ait de l'ego. Si l'ego n'existait pas dans l'homme, l'homme serait impuissant à devenir maître de la vie. Parce qu'il n'y aurait pas sur la Terre de point d'appui pour la conscience cosmique. Pour qu'il y ait conscience cosmique sur la Terre, pour qu'il y ait un lien entre les mondes de la lumière et l'homme, il faut qu'il y ait un centre en lui qui ait de l'intelligence, qui soit intelligent, qui puisse recevoir de l'intelligence, et ce centre, nous l'appelons l'ego. Mais le problème avec l'ego de l'homme, c'est que l'ego de l'homme est acier, formé d'émotions et d'intellect. L'ego de l'homme est formé de l'extérieur à lui-même. L'ego de l'homme, il est formé des impressions qui ont été accumulées au cours de sa vie, ou des impressions vibratoires qui se situent en lui, que les gens appellent le subconscient, et qui font partie de sa relation vibratoire avec l'énergie de la mémoire de l'âme. De sorte que l'ego de l'homme n'est pas dans l'intelligence cosmique. L'ego de l'homme, il baigne dans une conscience planétaire conditionnée intellectuellement et émotivement par les hommes qui nous entourent, par la société qui nous entoure, par les organisations qui nous entourent, par les systèmes qui nous entourent et qui nous nourrissent depuis que nous sommes petits, en plus des liens vibratoires que nous avons de par la naissance avec l'énergie de l'âme. De sorte que l'ego de l'homme, à la fin du 20e siècle, est totalement impuissant, il est totalement sans puissance, parce qu'il est totalement en dehors de l'intelligence. Et c'est le fait que l'ego de l'homme est en dehors de l'intelligence qui me renverse et qui me force, dans le public, dans mon travail, de faire reconnaître à l'homme l'importance que son ego, un jour ou l'autre, doit revenir à une identité personnelle. Chaque homme doit trouver son identité personnelle, et un homme ne peut trouver, découvrir, savoir son identité personnelle tant qu'il n'est plus influençable de l'extérieur, soit que ce soit par les hommes qui sont rattachés à la mémoire de leur âme, ou à l'extérieur, à l'intérieur de lui-même, sur le plan émotif et mental inférieur, qui est rattaché à la mémoire de son karma. L'ego de l'homme, il est extraordinaire, mais les hommes ne le voient pas. Les hommes subissent l'impuissance de leur ego, mais les hommes ne voient pas la lumière de leur ego sur les plans supérieurs. Et ne voyant pas leur être, ne voyant pas leur entité psychique réelle, volontaire, intelligente et amour, ils sont incapables de se destituer, de se libérer des influences maudites de la civilisation qui sont de plus en plus puissantes et qui constituent justement la programmation de l'humanité, faisant partie de l'involution de l'homme et faisant partie du principe luciférien rattaché à l'âme individuelle et empêchant l'homme, une fois pour toutes, de se libérer et d'entrer un jour dans sa propre lumière et de venir un jour à reconnaître les hommes qui sont dans leur lumière et évoluer sur des plans libres de la gravité terrestre pour créer une civilisation dans la lumière de l'éthérique. C'est ça l'évolution de l'homme, c'est ça le futur de l'homme, mais les conditions passées ont été nécessaires, mais l'homme aujourd'hui doit comprendre que son ego est sans puissance, parce que les hommes sont incapables de savoir par eux-mêmes. Ils sont obligés de lire des livres, ils sont obligés d'aller à l'école, ils sont obligés d'entendre les propos d'un ou les propos de l'autre, et je n'ai rien contre le fait qu'un homme entende les propos d'un ou les propos de l'autre, qu'ils viennent d'un peuple ou d'une autre nation, mais il faut que l'homme qui entende les propos d'un autre sache que les propos de l'autre sont ceci ou cela. Et si l'homme est dans l'intelligence, il sait qu'il y a de l'intelligence dans l'autre ego. Et s'il y a de l'intelligence dans l'autre ego, l'homme est universellement lié à cet ego. Et à ce moment-là, les deux hommes sont des frères. Et les hommes ne seront pas des frères tant que les hommes ne seront pas individualisés, ne seront pas dans leur propre identité, et que les hommes ne seront plus capables de vivre de leur propre intelligence. Ils vivront de l'intelligence des autres et ils seront des créatures du bon Dieu. Continue. C'est fini déjà?
Je pense qu'il ne faut pas se fâcher là-dessus, Bernard, puisqu'il semble que on doit subir une évolution. On doit subir ce passage à cet être nouveau, à cet homme de la sixième race. Même de le crier sur les toits à l'heure actuelle, ça serait de forcer les choses. Les choses arriveront comme elles doivent arriver, d'autres diront comme c'est écrit. Vous n'êtes pas de cette opinion que oui. Vous parlez actuellement, pas dans le désert, mais
oui. C'est très juste trop ce que vous dites. C'est très juste ce que vous dites, parce que il y a un temps pour toute chose. Et ce qui est important pour l'homme, à la fin du cycle, c'est de comprendre que l'homme, il y a une partie en lui qui est intelligent. Et tous les hommes, dans leur expérience, ont vécu à un certain moment de leur vie cette petite partie en eux qui est intelligente. Vous appelez ça, vous, de l'intuition. Alors, de l'intuition, c'est une petite partie de cette intelligence, mais qui n'a pas le pouvoir de s'exprimer d'une façon réelle, parfaite, catégorique et absolue, parce que il y a dans l'homme une mémoire émotive et mentale qui tue, qui diminue cette intuition. Et si les hommes peuvent simplement comprendre que s'ils sentent en eux quelque chose, s'ils sentent en eux la moindre chose, même s'ils ne le comprennent pas d'une façon parfaite, au moins qu'ils gardent ce petit quelque chose qu'ils sentent, même si la belle-mère n'est pas d'accord. C'est ça que je veux dire. Et ce sont ces hommes qui auront la capacité de sentir ce petit quelque chose et de le laisser grandir et grandir et grandir et de ne pas le laisser mourir à cause de la mémoire de l'âme et de son influence sur l'intellect, l'émotion. Ce sont ces hommes qui, petit à petit, pourront rentrer dans leur sentiment de l'intelligence pour plus tard rentrer dans l'intelligence de l'intelligence.
On va poursuivre après cette pause de 15-20 minutes. Est-ce que c'est notre ego qui s'accroche à l'âme pour retourner à la mémoire universelle des choses du passé? Est-ce que c'est cet ego-là qui va se réincarner s'il y a de la réincarnation? Et s'il n'y a pas de réincarnation, mais que c'est fini après, est-ce que c'est l'ego qui subsiste ou est-ce qu'il n'y a rien qui subsiste?
Bon. Le phénomène de survie... Il y a deux phénomènes possibles pour l'homme sur une planète. Le phénomène le plus connu, c'est la mort. Et l'autre, c'est l'immortalité. Alors, pour que la raison pour laquelle l'homme meurt, normalement, c'est parce que ses principes inférieurs, le corps physique, le corps vital, le corps émotionnel et le corps mental inférieur, ne sont pas intégrés à la lumière. Et n'étant pas intégré à la lumière, l'homme est obligé de retourner ses principes, autrement dit, sont obligés de retourner à leur plan. Et l'évolution qui se fait au cours des âges construit ses plans, construit ses plans, construit ses plans, les parfait ses plans. Jusqu'au jour où ses plans ayant atteint un certain niveau de perfection, l'homme puisse passer de l'étape de la condition humaine, qui est la mort naturelle, à l'étape de la fusion entre l'énergie et lui-même, permettant à l'homme, pour la première fois depuis son évolution, de maintenir la conscience continue dans ces plans-là. Mais pour que l'homme maintienne la conscience, autrement dit, les principes universels qui sont l'intelligence, l'amour et la volonté, pour que l'homme puisse maintenir ces principes-là actifs en lui, il faut qu'il ait un plan supérieur d'activer. Un plan supérieur qui est libre, totalement et parfaitement libre de l'influence de l'âme. C'est ça qu'on appelle le supramental. Alors, lorsque l'homme est dans une conscience supramentale, il n'est plus dans la conscience planétaire. Il est dans une conscience cosmique grandissante, et étant dans une conscience cosmique grandissante, automatiquement, il n'est plus conditionné par la condition de l'homme inconscient. C'est ça la différence entre l'involution et l'évolution. Et à ce moment-là, l'homme, à cause du fait qu'il a intégré l'énergie de l'âme dans ses principes, développe ce qu'on appelle l'esprit de l'ego, c'est-à-dire l'intelligence dans l'ego. Et lorsque l'homme a l'intelligence dans l'ego, ça implique qu'au lieu d'avoir le physique, le vital, l'émotionnel et le mental inférieur de développer, il a aussi le supramental. Au lieu de fonctionner avec 4 principes, il fonctionne avec 5 principes. Et fonctionnant avec 5 principes, il a établi, il connaît le pont entre la matière et l'invisible. Et une fois qu'il y a le pont, que ce pont entre la matière et l'invisible est établi, qui est la conscience supramentale, à ce moment-là, il est capable de développer ce qu'on appelle son corps morontiel, son corps de lumière. Et c'est avec ce corps de lumière-là qu'un jour, lorsque le cycle finit, que la conscience planétaire change, et que l'homme passe d'un plan de conscience inférieure, planétaire, où ses principes doivent retourner à leur point d'origine, et où son corps matériel doit retourner à la Terre, l'homme, à ce moment-là, est capable, à cause de la fusion, d'élever la vibration de ses principes, le vital, le matériel, l'émotionnel et le mental, des élever et de se reconstruire matériellement sur un plan parallèle. Et ce plan parallèle est le plan où l'homme devient automatiquement un immortel. Le Nazaréen, quand il est mort, c'est ce qu'il a fait. Il est mort. Et quand il est revenu sur le plan matériel, il a reconstitué, à cause de sa conscience, ses principes, et il s'est immortalisé. Alors, les hommes doivent, au cours de l'évolution, en arriver à cette même progression de la vie sur Terre.
Mais s'ils n'y arrivent pas en 1940...
S'ils n'y arrivent pas en 1900 tranquille, ils vont y en arriver plus tard. Ben, un jour ou l'autre, l'homme doit immortaliser la planète. Il y a dans l'univers, quand on parle de l'univers, les gens, c'est très vaste l'univers. Et l'univers physique, il n'y a rien là. C'est très petit, comparé avec l'univers total. Il y a dans l'univers au-delà de 700 000 civilisations. Et ces civilisations-là, éventuellement, devront être présidées dans leur gouvernement par un être immortel de la Terre. Ça, c'est dans les temps futurs. Et lorsque ces civilisations-là auront été présidées par un être immortel venant de la Terre, étant constitué d'une certaine façon, à ce moment-là, la vibration de la Terre sera élevée à un tel point que la Terre deviendra un centre de gouvernement mondial à l'échelle de la galaxie. Ça fait partie de l'évolution. Alors, c'est très normal pour l'homme, éventuellement, et c'est normal, quand je dis c'est normal, je dis ça doit être comme ça, l'homme, un jour, doit en arriver à développer un autre principe qu'on appelle... pour le bien de la cause, la conscience supramentale, où il est automatiquement en relation vibratoire avec l'intelligence universelle. Et à ce moment-là, il est libre de l'âme, l'âme le sert, et ses principes vibratoires augmentent en vibration, et un jour, quand c'est le temps, quand le rayonnement se fait, l'homme passe d'un plan à un autre.
Donc, l'ego de chaque homme se survit à lui-même, c'est-à-dire que c'est ça qui se réincarne.
C'est ça qu'on appelle l'identité. L'homme n'a pas d'identité aujourd'hui. L'homme a une individualité. Mais il n'a pas d'identité parce que pour avoir une identité, il faut se connaître soi-même. Mais pour se connaître soi-même, il faut être dans l'intelligence. Alors, lorsque l'homme est dans l'intelligence et se connaît soi-même, c'est facile. C'est facile pour lui de connaître les autres. Mais tant que l'homme n'est pas dans l'intelligence, il ne se connaît pas soi-même parce qu'il est dans l'intellect. Et étant dans l'intellect, il est assujetti à la mémoire de l'âme et automatiquement, il essaie de se connaître soi-même. Tous les hommes aujourd'hui, beaucoup d'hommes aujourd'hui, essaient de se connaître soi-même par le yoga, la méditation, s'accrocher un clou, n'importe quoi. Les gens essayent de toutes sortes de façons, en mangeant des raisins, à se connaître soi-même. Mais c'est pas en mangeant des raisins que tu vas te connaître toi-même. C'est en étant dans l'intelligence. Et l'intelligence t'explique toi-même, l'intelligence t'explique pourquoi tu as fait telle chose de 10 ans. L'intelligence t'explique l'avenir, le passé, le futur.
Alors, cet homme qui va se reconstituer sur les plans de la matière, du mental, etc., c'est ça qu'on appelle le corps glorieux du Christ. C'est ça qu'on appelle quand on parle de la résurrection des corps à la fin
du temps. C'est ça. C'est le corps morontiel. C'est le corps de lumière, puis ce corps-là, sa vibration est tellement haute qu'elle ne peut pas coexister avec la matière. Alors, elle existe sur son propre plan parallèle, qui est un monde parallèle, et là, l'homme évolue dans ce plan-là.
Tantôt, vous nous avez longuement expliqué la conception du principe luciférien en laissant en passant que Lucifer n'existe pas. Mais il y a le principe luciférien.
Oui, Lucifer n'existe pas en tant que personnalité. Les gens pensent à Lucifer comme un bonhomme avec un pinch, puis une grande queue. Les hommes ont des grandes queues, pas Lucifer. Mais le principe luciférien, c'est un principe d'intelligence actif. Et ce principe d'intelligence active devient de plus en plus puissant au fur et à mesure que de plus en plus d'informations servent à lui donner des formes pour que cette intelligence-là puisse s'activer sur un plan inférieur. Vous dites des choses, comme vous avez dit des choses, je ne veux pas les répéter parce que je ne veux pas m'identifier à ce que vous dites à cause du fait que les gens interprètent symboliquement souvent ce que l'on dit ou ce que vous pouvez dire. Mais c'est le principe de ce que je vous dis, c'est le principe derrière ce que vous avez dit que je veux prendre, sortir de. Vous dites, vous avez dit ce soir que, dans vos mots, là, je ne suis pas prêt à préciser comment vous avez dit ça, mais comme le diable est, comment vous avez dit ça? Vous avez parlé du diable quelque part, là. Satan, en tout cas.
À la fin du 20e siècle, à la fin de notre époque, il va y avoir Lucifer. Satan va être incarné parce que le principe, justement, du Christ s'est incarné dans le principe christique dans le Nazaréen. La même chose, le principe luciférien va s'incarner sur la terre et va s'incarner dans un corps, dans un être humain qui est déjà né. Et il va monter, lui, ce qu'on appelle, il va devenir ce qu'on appelle l'antéchrist. Il va monter les peuples contre les peuples, les nations contre les nations. Et c'est justement lui qui va être le chef de la grande guerre d'Armageddon avant le retour du Christ glorieux dans sa Jérusalem céleste.
Bon, OK, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ce parti. En tout cas, le principe que je voulais extraire de ce que vous avez dit, c'est que on dit souvent...
Ouais, excusez-je, parce que aussi on vient de me rappeler, l'autre phénomène, c'est le troisième secret de Fatima qui se trouve à être celui qui dit que le diable est monté jusque dans les hautes sphères ecclésiastiques catholiques.
Bon, OK. Alors, j'extrais de ça. OK? Je corrobore pas ce que vous dites, ou dans ce sens que je l'explique pas, ou je le développe pas, ou je reste pas avec ça, mais je m'en détache complètement, mais je veux prendre le principe. Quand vous dites que le diable ou Satan, ou ce personnage-là, est dans les hautes sphères de cette grande organisation qu'on appelle le Vatican, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Ça veut dire que le principe luciférien est actif dans les plus hautes sphères, dans les sphères les plus nobles de l'évolution de l'homme, de l'organisation humaine. Et comment ce principe luciférien est-il actif? Il est actif par les formes. Il est actif par les formes qui se situent dans le mental humain, que ce soit d'un prêtre ou d'un laïc. Il se situe par les formes qui sont contenues dans les motifs de l'homme. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. C'est que le principe luciférien se sert des formes pour permettre qu'il y ait sur la Terre une condition humaine. Et cette condition humaine-là, elle évolue par la mécanicité de l'émotion et de l'intellect. Et un jour, qui c'est qui paye pour? C'est nous autres. C'est toujours l'homme qui paye pour. Puis ça fait encore partie de toute l'énergie qui s'en va dans l'information de l'âme, dans la mémoire de l'âme, puis ça continue. Et c'est ça que je veux dire quand je dis qu'un jour, l'homme devra être capable de percevoir l'énergie de l'intelligence qui détruit ses formes et qui l'amène, lui, en tant qu'individu, à passer du stage de l'individualité dans une collectivité à une identité réelle et inaltérable. Et cette identité-là devient de plus en plus forte parce que les corps deviennent de plus en plus hauts en vibration jusqu'au jour où l'homme passe d'un plan à un autre. Alors, vous parlez d'une certaine façon et moi j'essaie d'expliquer ce que vous dites à ma façon pour faire comprendre aux gens que c'est pas en expliquant quelque chose ésotériquement par la voie du symbolisme, qu'on comprend la réalité de l'homme. Mais c'est en comprenant les lois de la forme qu'on en arrive à comprendre parfaitement le symbolisme que vous expliquez. Que ce que vous expliquez, ou la façon dont vous vous y prenez pour expliquer telle chose, peut invoquer chez l'homme la croyance ou l'incroyance, peut invoquer chez l'homme des attitudes quelconques. Et l'homme doit un jour être capable d'aller au-delà des attitudes de croyance ou d'incroyance, ou du vrai ou du faux, si tu es comme ça ou si tu es pas comme ça, pour comprendre essentiellement la réalité du principe de l'énergie qui se sert de la forme pour créer ce que vous symboliquement expliquez au public.
Est-ce qu'il est possible de penser que le principe luciférien va s'incarner sur la terre?
Toutes les prophéties qui ont été faites, l'Antéchrist, tout ça là, toutes les prophéties qui ont été faites font partie de l'information qu'ont reçue un certain nombre d'hommes dans l'histoire humaine. Et cette information-là, elle sert à avertir l'homme intellectuellement et émotivement pour le préparer intellectuellement et émotivement. Mais ça ne change absolument rien à l'histoire de la Terre. C'est pas ce qui a été écrit dans les prophéties, moi, qui m'intéresse. C'est comment m'en sortir, mais que ça arrive. Comment as-tu la différence? Quand même les gens me parleraient de l'Antéchrist, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il va venir, le gars, s'il vient. D'abord, j'en parlerai jamais de ça. J'en parle jamais des prophéties. Mais si jamais il vient, le gars, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être assez mental, puis avoir assez d'identité, être, autrement dit, suffisamment dans l'intelligence pour ne pas être influencé par lui, puis être encore suffisamment dans l'intelligence pour dire, mais viens-tu, on va aller prendre un petit café chez Eaton. Autrement dit, ne pas être influençable. C'est ça que je veux dire. Au lieu de subir constamment pendant des années de temps des craintes puis des inquiétudes avec tout ce qui va se passer puis que tout ce que les psychiques racontent partout dans le monde, là, au lieu de subir émotivement et intellectuellement ces vérités probables, ce qui compte pour l'homme, c'est d'être suffisamment dans son intelligence pour même pas être influençable quand ça va arriver, puis être suffisamment dans son intelligence et être suffisamment haut en vibration que si jamais il y a une guerre nucléaire quelque part entre l'aigle puis l'ours, que l'homme en soit même pas affecté parce que il sera dirigé par l'intelligence. Il sera amené par l'intelligence, il sera protégé par l'intelligence, parce que l'intelligence est la lumière.
J'ai une double question maintenant, c'est que l'être humain a vécu au début, il a été créé d'ailleurs au paradis terrestre. L'homme ne vient pas du ciel, mais il vient du paradis terrestre. Il a été en face de Satan, le diable, Lucifer. Et Lucifer était au paradis avec Dieu au début de la création, juste inférieur à ce qu'on appelle les Michael, Saint-Michel, etc. Lucifer, Lucifer est porteur de lumière, et celui-là descend dans la matière. Le principe luciférien est celui qui est allé rencontrer l'homme qui vivait au paradis terrestre, là où l'homme avait été créé, et s'est manifesté sous la forme, justement, de l'intelligence. Comment faire la différence entre l'intelligence de Lucifer et l'intelligence dont vous nous parlez pour être conscient?
Quand on parle de l'intelligence dans la Bible, on ne parle pas de l'intelligence universelle, on parle de l'ego, de l'intellect. C'est l'intellect qui a mis l'homme dans la merde. C'est pas l'intelligence cosmique. L'homme n'a jamais vécu d'intelligence cosmique. L'intelligence cosmique, c'est une intelligence qui commence à descendre dans l'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, et c'est ça qui va élever l'homme de la condition humaine, c'est ça qui va créer le nouveau cycle d'évolution. Alors, quand on parle de l'intelligence dans la Bible, on parle de l'intellect, on parle de ce qui a amené l'homme à développer son ego au niveau mental. Et ça, c'était bien et c'était bon. Parce que ça permettait à l'homme éventuellement d'en arriver à un stage où plus tard, il pouvait recevoir cette vibration du rayon qu'on appelle l'intelligence universelle. Sans ça, l'homme, tu peux pas... L'intelligence universelle est certainement pas pour descendre dans ton chien et donner un doctorat. T'sais, ça prend des corps. Si ton chien avait un corps mental, puis là, l'intelligence universelle pourrait rentrer dans son chien, puis là, tu aurais un chien intelligent. Alors, ça prend des principes. Alors, l'homme devait avoir des principes, et les principes, c'était le développement de l'intellect. Alors, l'homme a passé des phases d'évolution. Puis à part ça, l'affaire de l'homme. L'homme, c'est pas venu comme les gens pensent. Il y a eu des phases dans l'évolution de l'homme. D'abord, il y a eu le corps... Il y a quelqu'un qui me demandait dernièrement si l'homme venait du singe.
L'évolution de l'homme, le corps matériel, l'enveloppe matérielle, l'homme primitif existe sur la Terre depuis des millions d'années. Ça, ça s'est développé. Il y a eu des singes là-dedans, je le sais. Non, encore aujourd'hui. Ensuite, à un certain moment, le corps éthérique de l'homme. Parce que l'homme, c'est pas ça. On pense, nous autres, que l'homme, c'est ça. C'est pas ça, l'homme. Ça, c'est l'enveloppe de l'homme. L'homme est multidimensionnel. Alors, le corps éthérique de l'homme, éventuellement, s'est densifié, et éventuellement, il est rentré dans une de ces enveloppes matérielles-là qu'on appelait l'homme primitif. Qu'on reconnaît encore aujourd'hui, parce qu'il en reste des espèces un peu sur la Terre. Le Yeti, l'homme de Shasta, tous ces êtres-là, là, font partie de l'homme primitif. Et lorsque ce corps éthérique est rentré dans l'homme, il a créé des changements vibratoires dans le corps physique. Et ça l'a donné naissance à un homme de base, qu'on appelle, qui est venu jusqu'au stage du Néandertal, du Cro-Magnon. Puis rendu à ce stage-là, l'homme avait la position debout, érigé, et à ce moment-là, c'est là que l'homme est entré en contact avec les extraterrestres. Et les extraterrestres ont infusé dans son mental une vibration qui a permis que l'homme développe l'intellect. C'est ça le stage d'Adam et de Ève. Alors, il y a eu des phases d'évolution dans l'homme. L'homme ne vient pas du singe, seulement l'homme s'est servi du corps du singe, en a changé la vibration pour qu'il devienne un petit peu plus fonctionnel, si vous voulez. On est plutôt même pas se promener à quatre pattes. Ah. En rentrant dans l'homme, dans le corps du singe, le corps éthérique a changé la structure de ce corps-là pour que l'homme devienne un être érect. Et ensuite, cet être-là s'est développé pendant un certain temps, donnant naissance au Cro-Magnon, au Néandertal, puis ensuite, le contact s'est fait avec les extraterrestres, et c'est là qu'on a connu pour la première fois sur la Terre cinq races d'hommes, l'homme racial. Les jaunes, les noirs, les blancs, les rouges, tout ça. Ah, parce que les infusions sont venues de différentes planètes. Les Noirs sont en contact avec des extraterrestres venant d'une certaine partie de la galaxie. Les Chinois viennent. Il y en a qui pensent que les Chinois sont des Chinois puis ils ont hérité de même parce qu'ils mangent du riz. Voyons. Puis il y en a qui pensent que les Noirs sont noirs parce qu'il fait chaud en Afrique. Voyons. Faut pas, tu sais. Bon, en tout cas. Alors, si cet homme-là a été infusé par le contact avec des extraterrestres, et ça l'a donné l'homme racial. Et à partir de l'homme racial, là, il y a eu des étapes de conquête, des étapes d'imposition d'une forme d'intelligence sur cet homme-là, parce que cet homme-là est encore très primitif. Fait que les initiés qui sont venus en ce temps-là ont parlé, puis ont parlé, puis ont parlé, puis il y avait même des contacts avec des extraterrestres dans ce temps-là, puis à un certain moment, ils se sont retirés eux autres, parce que les hommes faisaient des dieux d'eux autres. C'est facile pour l'homme de faire des dieux des hommes. Alors, les initiés sont venus et ils ont donné à l'homme de la connaissance pour l'éveiller un peu, pour qu'il développe des mœurs, pour qu'il développe des lignes d'évolution.
Ces initiés, est-ce que c'était des extraterrestres?
Ces initiés étaient des extraterrestres. Alors, ils ont donné à l'homme de l'information, mais de l'information voilée, qui servait dans le temps, qui était parfaite dans le temps. Puis ça servait, puis ça avançait. Et là, on est rendu à la fin du 20e siècle. Hey, on envoie des fusées dans l'espace. On a une technologie. On a le cerveau, autrement dit, bien organisé. Il est temps que l'homme commence à comprendre que ce que ces initiés-là ont dit dans le temps doit être compris à la lueur de la même intelligence dont eux étaient les porteurs. Puis on est rendu à ce stage-là. C'est pour ça que je dis, l'homme aujourd'hui ne peut plus prendre les formes telles qu'elles lui sont présentées. Il faut qu'il rouvre la noix puis qu'il regarde dedans comment est-ce que c'est fait. Mais nous autres, on a passé des milliers d'années à manger la noix. Là, il est temps qu'on prenne un couteau pour qu'on l'ouvre la noix puis qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Puis ça prend de l'intelligence universelle. Puis c'est ça qui se produit sur la Terre aujourd'hui. Puis c'est ça qui va créer la mutation. Puis quand elle se présente, cette énergie-là, elle se présente. Puis quand elle se présente pas, elle se présente pas. Puis chaque homme est prédéterminé à la recevoir selon son niveau d'évolution. Puis c'est aussi simple que ça.
Vous parliez de l'histoire très ancienne de l'homme. Est-ce qu'on peut associer aussi la civilisation de Lémurie, la Terre de Mu, après ça, l'Atlantide?
Ça fait toute partie de ça.
Parce que dans la plupart des textes sacrés de toutes ces sociétés, que ce soit en Orient ou en Occident, il y a le retour de ces initiateurs, de ces ancêtres venus du cosmos.
Oui, ils vont revenir. D'ailleurs, il y a des contacts avec les vous appelez ça, vous autres, des ovnis. Ça commence à se faire un peu partout dans le monde, mais ils peuvent pas venir ici, puis ils peuvent pas chambranler la conscience planétaire. Il y a des lois. Il y a des lois dans le cosmos qui empêchent que ces êtres-là viennent ici, puis ils descendent dans le centre de Montréal, puis qu'ils descendent à New York. Il y a un temps, puis quand ils vont venir, ça va être le temps, puis ils viendront pas avant. Il y en a qui viennent de temps en temps, mais c'est totalement sporadique, puis c'est pour créer une petite impression lentement. Mais je mets toujours les gens en garde contre le phénomène OVNI parce que l'homme, pour comprendre la psychologie des extraterrestres, il faut être dans l'intelligence universelle. Comme eux sont dans l'intelligence universelle. À ce moment-là, il n'y a plus de problème. Sans ça, si tu n'es pas dans l'intelligence universelle, puis qu'eux autres descendent et ils te disent telle chose, telle chose, telle chose, puis tu ne le comprends pas essentiellement, ils vont te charrier parce que leur puissance mentale est trop grande. Donc, automatiquement, tu deviens un robot.
Est-ce que ce sont des gens qu'on pourrait dire, nous, des gens de la sixième race? Est-ce qu'ils ont franchi, les autres, l'étape, là? Est-ce qu'ils sont rendus dans la conscience?
Ils n'ont pas eu la même évolution que nous autres. Ils vivent sur d'autres planètes. Leur constitution physique est différente. Leur esprit est différent. Leur âme est différente. Leur mémoire est différente. Ils sont totalement différents. Seulement, ils comprennent les lois de l'univers. Puis quand ils viennent ici, ils s'aperçoivent qu'on est un groupe de tatas. Puis c'est pour ça qu'ils peuvent pas venir trop vite, parce qu'on tatouette. Fait qu'ils sont pas venus, ils sont pas pour débalancer notre civilisation. Ils viennent ici pour nous aider, puis ils vont venir quand c'est le temps.
Vous disiez tantôt que de la planète Terre surgirait le grand gouverneur de la galaxie.
La planète Terre est le siège du régent de la galaxie. Et le régent de la galaxie, sa présence sur Terre, un jour sera connue dans le monde entier, selon des lois qui conviennent à sa conscience et non selon des lois qui conviennent aux désirs spirituels de l'homme. Et ce régent, le régent de la galaxie, cet être-là, se manifestera après ce que vous appelez, vous autres, l'Antéchrist. Et c'est sa présence sur la Terre, c'est sa manifestation. Pas sa présence, mais sa manifestation éthérique sur la Terre qui brisera les liens entre le pouvoir de l'ancienne humanité et établira la base d'une civilisation nouvelle. Et ça fait partie des temps, puis ça viendra quand il se décidera.
C'est ça la question que je vous posais aussi tantôt. Si inévitablement on fait partie de la cinquième race, on va mourir de notre corps physique. Si inévitablement il arrivera des événements de genre guerre nucléaire ou autre, que ce soit ce que ça voudra, inévitablement on arrive au bout du chemin. Alors qu'est-ce que ça nous donne d'essayer de changer quelque chose actuellement si on se dit, en se croisant les bras, ça va évoluer parce que ça évolue.
Bon, ben regardez, c'est subtil. Tout le monde gueule pendant des années de temps, tout le monde bat des ailes pendant des années de temps, tout le monde écrit des livres, tout le monde veut changer le monde pendant des années de temps. Puis là, vous me demandez pourquoi est-ce que tout le monde veut changer le monde? Ça fait partie de la nature humaine. Les hommes veulent sauver les hommes. Tout le monde veut sauver tout le monde. Quand les gars comprendront qu'ils laissent faire le monde, qu'ils occupent tout de toi, à ce moment-là, les gens commenceront à comprendre quelque chose. Mais tout le monde veut sauver tout le monde. C'est plein de prophètes dans le monde. Puis vous n'avez pas plus que ça. Puis tout le monde y va. Puis tout le monde va y voir. C'est la nature de l'homme.
Les enfants actuellement qui sont des gros points d'interrogation pour la science, qui pèsent avec le doigt sur le mur, puis l'eau jaillit, ils dorment la nuit, ils montent au plafond. Ils sont tout petits, ils ont 2 ans, ils parlent la langue du pays en russe ou en chinois. D'où ça vient ces êtres-là? Est-ce qu'ils sont déjà de la sixième race? Pourtant, ils n'ont pas l'air d'avoir un corps éthérique.
Ce sont des êtres qui sont liés à des vibrations, qui ont des vibrations particulières et qui représentent petit à petit l'évolution du pouvoir de l'homme sur la nature. Ça se fait lentement, puis ça se fait lentement, puis ça se fait lentement, puis ça se fait lentement. Puis il va y en avoir de plus en plus de ça. Je vous l'ai dit depuis des années. Il va venir un point où les hommes de science, la science, va s'apercevoir qu'il y a des choses qui tournent pas rond. Puis quand il va y avoir suffisamment de scientistes qui vont s'apercevoir que les choses tournent pas rond, mais tout le monde va commencer à tourner en rond. Puis là, ça a commencé.
tout le monde tourne en rond, parce que les choses tournent pas rond. Les choses tournent pas rond, que des choses qui a des éléments qui ne conviennent pas à telle catégorie de pensée, c'est normal. Puis c'est le début. L'homme s'en va vers un autre niveau de conscience. Ses neurones sont altérés par l'énergie, ce qui crée la mutation. Fait que c'est à nous autres, les hommes, au lieu de capoter, puis d'avoir peur, puis devenir des suiveux, c'est à nous autres de commencer à regarder en dedans de nous autres, puis aller chercher en dedans de nous autres ce qu'on a, notre intelligence. On a toute l'intelligence. Mais il faut qu'on enlève la poussière, puis la poussière, c'est la mémoire de l'âme. Ça revient toujours au même principe.
C'est parce que nous autres, on nous a dit dans le temps que Adam et Ève au paradis, Dieu lui insouffla une âme.
Oui.
Alors, pour vivre,
oui,
il faut une âme. Puis vous nous dites, oubliez ça, votre mais âme, oui, elle vous retarde.
Vous autres, vous savez qu'est-ce que c'est votre problème? C'est que tout ce qu'on a dit dans le passé, tout ce qui a été dit dans le passé, vous prenez ça pour du cash. C'est Dieu insuffla une âme. D'abord, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Dieu. Fait que c'est ça, du gros cash. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une âme. C'est encore du petit change. Puis là, vous mettez le gros cash ensemble, puis du petit change, puis vous vous ouvrez un compte de banque. Ça, c'est votre façon de penser. Alors, que l'homme ait besoin de l'âme pour vivre, c'est normal, parce que l'homme a besoin pour vivre que ses principes soient activés, et l'énergie de l'âme, la mémoire de l'âme, active le mental de l'homme. Mais tu as besoin d'une âme pour avoir de la pensée. Une âme individuelle. Sans ça, tu aurais une âme collective, tu serais comme un animal. Si tu avais une âme collective, ça t'empêchera pas d'être titre et d'être vivant, seulement on ne parlera pas le même langage. Mais le fait que tu as une âme individualisée, ça te permet d'avoir de la mémoire, et c'est cette mémoire-là qui te sert à créer des pensées qui tiennent debout. Ah, l'âme, elle est importante dans ce sens-là. Mais, nous autres, on entend dire que Dieu insouffla, tu dis ça? Dieu insouffla ou souffla. Bon, c'est de la belle symbologie, mais il faut comprendre ce que ça veut dire, cette affaire-là. Ça veut dire que l'âme, c'est la réserve permettant à l'homme de développer un corps mental, lui permettant éventuellement de développer une individualité, lui permettant éventuellement d'atteindre une identité lorsque il a renversé la polarité de cette énergie-là en lui, autrement dit, lorsqu'il a perdu la faculté qu'elle lui a donnée depuis des siècles, celle de penser. Tout le monde pense qu'il faut penser pour savoir. C'est le contraire. Il ne faut pas pouvoir penser pour savoir. La minute que tu penses, t'es fini. Alors ça, ce sont des conditions de la nouvelle évolution. Puis quand tu dis ça au monde, mais les gens, ils pensent que t'es capoté. Tu sais? C'est la condition de la nouvelle évolution, puis les gens vont rentrer là-dedans lentement, puis ils vont bien voir que c'est le même.
C'est pas très sécurisant parce que ça fait
pas. C'est pas sécurisant parce que l'ego veut toujours se sécuriser dans ce qu'il a, puis ce qu'il a, il doit le perdre. Si tu veux monter au cinquième étage, Charlie, il faut que tu lâches la marche. Tu sais, vous autres, c'est marche, puis tout le monde veut monter au palier, ben Chris, lâchez-le le palier, montez! Au niveau physique, c'est normal. C'est sur le plan physique, c'est normal, émotivement, mentalement, qu'on veut s'accrocher. C'est comme le petit bébé qui vient au monde. Faut que le médecin le coupe la corde. S'il le coupe pas, tu vas avoir un kangourou. Au niveau de l'intelligence, Richard, c'est la même chose. À un certain moment, faut qu'on coupe la corde avec le plan vibratoire de la pensée subjective pour rentrer dans le grand vide mental qui est rempli par cette énergie-là qui est de l'intelligence. Mais on a toute la chienne, je comprends, parce que ça fait des années qu'on vit de même. Ça fait des siècles qu'on est têté et qu'on est allaité. Fait que naturellement, quand quelqu'un arrive et dit « Écoute, moi, tu changes ça, le lait pour de la bière », mais il y a une crise d'estomac.
Oui, mais il y a peut-être aussi qu'on n'est pas capable, qu'on peut pas. On ne peut pas biologiquement ou cérébralement.
Ça ne fait pas partie de nous autres, Richard. Ça fait partie de l'évolution. C'est Penses-tu que les Atlantes, quand ils sont arrivés, les Atlantes, puis ils ont fait des gaffes, puis qu'eux autres en haut, ils les ont fait sauter, comment ils auraient voulu, qu'ils n'auraient pas voulu? Ils ont sauté pareil. Ceux qui n'ont pas souffert de ce qui s'est passé, c'était ceux qui ont compris qu'il y avait la vibration, puis qui étaient capables de saisir ce qui se passait. Puis ils ont sacré leur camp en Égypte, puis sont venus ici à Mexico, puis ils ont fondé d'autres civilisations. Mais ceux qui sont restés dans leur trou en Atlantide, ils sont en dessous de l'ouvre. Ça, je te dis, tu comprends? Ça a toujours été de même. C'est la même chose avec ce qui va arriver. Seulement, à ce point-ci, ça va être à l'échelle mondiale. Là, il y en a qui vont partir, ils vont s'acheter des costumes anti-feu, anti-gaz, voyons. Comment tu serais tenu sur la plage? Si t'es à la bonne place, tu ne seras pas pogné. Mais l'affaire et la chose, le principe, c'est que pour être à la bonne place, il faut que tu le saches. Qui c'est qui va te le dire? C'est pas ton intellect, c'est eux autres. L'intelligence va te le dire. Mais si elle dit ton intelligence, mais va-t'en à telle place, là, puis reste là, puis toi et ton intellect, puis ton émotion, ta mémoire de l'âme bloque ça, mais à ce moment-là, t'es mieux d'acheter un scaphandrier.
Mais il y a une question que je suis sûr on voudrait vous poser. C'est où serez-vous? En 84, vous dites vous arrêtez les conférences.
En 84?
Vous nous avez souvent dit dans les conférences que moi je parle, mais en 84, je ne parlerai plus dans le public. Où serez-vous rendu?
Si c'est quoi?
Je vais me déguiser en supramental pour qu'ils comprennent le message. Non, mais où serez-vous, Bernard, de Montréal, en 84?
Ben, en 84, c'est loin, 84. 84, je fais d'autres choses, je peux pas toujours faire la même chose. Tu sais, j'ai bien des arcs à mon arc. Des cordes, hein? Des cordes. J'ai bien des cordes à mon arc, je peux toujours faire la même chose.
Mais devant l'athéisme, les deux pieds dans l'athéisme, ce que vous nous dites, ça va pas à l'encontre de l'athéisme.
L'athéisme?
Ça va plus à l'encontre de la religion que de l'athéisme.
Ça va à l'encontre des deux. L'athéisme, d'abord, m'a dit une chose. Tu sais, t'es comique. Tu divises tout ça, un bord vu de l'autre. La polarité. L'athéisme, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude intellectuelle qui va contre l'émotivité interne de l'homme. Puis ça, l'athéisme, c'est soit culturel, comme en Russie, ou c'est imposé, ou c'est ça fait partie du tempérament intellectuel de l'homme. Mais il n'y a pas de différence entre l'athéisme et le théisme. C'est deux formes différentes d'ignorance. Comprends-tu? Que tu croyes en Dieu ou que tu n'y croyais pas, tu es ignorant pareil parce que tu ne sais pas que c'est que tu crois anyway. Tu comprends? Fait que si tu ne crois pas que Dieu existe, tu crois simplement à l'absence de la forme, puis si tu crois que Dieu existe, tu es prisonnier de la forme. Fait que tu es pogné pareil. Tu comprends? Tandis que de l'intelligence universelle dans l'homme, ça te permet de comprendre. Que c'est Dieu, puis pourquoi est-ce que les hommes sont athées, puis pourquoi est-ce que les hommes sont têtés? Fait qu'à ce moment-là, toi, t'es dans l'intelligence, t'es en dehors de la croyance, de l'incroyance, t'es dans ton réel, t'es dans le réel du mental. Quand t'es dans le réel du mental, t'es même pas intéressé à être théiste ou athée. Moi, si tu me demandes, je suis théiste, ça me dit rien, théiste. Si tu me demandes, tu crois-tu en Dieu, il m'a dit, je ne crois pas. Si tu me demandes, Dieu existe-t-il, il m'a dit, il existe de l'intelligence que toi, t'appelles Dieu. Puis si tu me demandes d'en parler un petit peu plus, m'en parler un petit peu plus. Mais moi, je ne crois pas, je n'ai pas besoin de croire, parce que croire, c'est une attitude intellectuelle et émotive de l'homme. Dans le supramental, tu ne crois pas, tu sais. Fait que quand t'as pas besoin de croire, ben là, t'es bien. Fait que si ton chum, c'est un athée, tu l'invites, tu prends un coup, puis si ton autre chum, c'est un théiste, tu l'invites, puis tu bois du café. Même chose. Au moins, tu t'amuses avec les deux. Mais vous autres, si vous êtes théiste, vous parlez à un athée, vous faites de la guerre, puis si vous êtes avec athée, vous parlez à un théiste, vous faites de la guerre. Fait que d'un bord ou de l'autre, c'est tout des guerres de religion.
Tandis que quand tu es dans l'intelligence, que tu parles à un gars qui est athée ou que tu parles à un gars qui est théiste, ça change rien. Parce que c'est deux formes différentes d'ignorance. Une ne se servant pas de son intuition sur le plein motif, et l'autre s'en servant trop.
Pourquoi cette intelligence ne se manifeste-t-elle pas, puisqu'elle l'a fait à la Pentecôte ou elle l'a fait à Saint-Paul sur le chemin de Damas, pourquoi elle ne le fait pas d'un coup sec là, pour tout le monde?
Pourquoi est-ce qu'elle le ferait?
Parce que les hommes sont imbéciles, ils vont s'entretuer.
Bon. D'abord, un jour, l'homme va comprendre que ce qu'on appelle de l'intelligence, ça n'existe pas. Il existe dans l'univers de l'énergie. Et l'énergie, dans sa perfection, dans son mouvement, quand elle se situe dans le mental, ça fait de l'intelligence. Quand elle se situe dans l'émotion, ça fait de l'émotion. Quand elle passe dans le vital, ça fait le vital. Alors, cette énergie cosmique, quand elle se situe sur quelque plan que ce soit, crée la qualité et la fonction de ce plan-là. Alors, c'est évident que cette énergie-là, quand elle passe sur un plan qui, pour l'ego, est un plan essentiel comme le plan intellectuel, il se développe une forme d'intelligence. Mais cette forme d'intelligence-là est accrue lorsque cette même énergie passe sur un plan supérieur en vibration qui fait partie de la multidimensionnalité de l'homme. C'est à quoi la question?
Pourquoi l'intelligence ne se manifeste pas d'un coup, brutalement, pour éviter que les hommes continuent dans l'ignorance?
Parce que c'est un phénomène d'énergie. Quand cette énergie-là rentre dans ton mental inférieur, il saute. Les gens sont pas tous prêts à recevoir cette énergie-là dans le mental. Il y a des gens qui s'en vont chez eux le soir, puis qui font noir, puis ils ont peur. Ils vont aux toilettes faire pipi, la porte est fermée, ils ont peur. Les gens vivent dans la crainte. Comment est-ce que tu veux que l'homme, tant qu'il est pas, qu'il n'a pas la vibration, qu'il n'a pas le mental puis l'émotionnel suffisamment fort pour subir cette pénétration d'énergie-là, il faut qu'il soit préparé, l'homme. Fait que quand ça se passe, au moins, le choc est moins dur. D'ailleurs, c'est pour ça que pourquoi est-ce que je parle en public? Pour préparer le monde, pour préparer chaque individu, pour dire, bon, ben, si t'arrives quelque chose dans la nuit, un jour, que tu sens une énergie qui rentre dans ton mental, puis tu sens de l'intelligence qui rentre, puis qui soulève ton esprit, ben, panique pas, puis pense pas que t'es en train de capoter. Habitue-toi, puis éventuellement, là, ça va s'intégrer. Alors, cette énergie-là est tellement forte que quand elle rentre dans l'homme, ça crée un choc. Puis si ça rentrait dans l'homme, sans que l'homme soit préparé, les gens pourraient pas subir le choc.
Il y a beaucoup de gens qui, en suivant Bernard, commencent à entendre des voix, entendre des messages, se disent il faut faire ça, puis ils passent à l'action dans différents sujets ou quittent leur famille ou quittent la société, etc.
Les gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire, c'est pas parce que les gens m'écoutent que les gens vont vers le supramental. Le fait que les gens viennent m'écouter ou quoi que ce soit, ça crée en eux une sorte de prise de conscience, puis là, c'est ça qui permet à l'énergie de rentrer parce que je détruis des formes. Mais les gens ont différents niveaux de sagesse, ont différents niveaux d'équilibre, ont différents niveaux de conscience leur permettant de vivre cette énergie-là. D'abord, l'ego, s'il se prend au sérieux, c'est évident qu'il va capoter. Si l'ego n'est pas... C'est pour ça que je mets toujours les gens en garde de pas croire, puis même pas croire ce qui se passe en eux autres, même pas croire la voix qu'ils entendent, simplement d'écouter, puis de développer petit à petit au cours des années du discernement, puis du discernement. Ça se fait pas instantanément, ça. Si ça se faisait instantanément, le problème de l'humanité serait résolu. Ça se fait petit à petit, seulement que on est tellement pogné dans notre psychologie personnel, que quand ça se brasse, ça, ben, automatiquement, nous autres, on vibre. Puis c'est là qu'on subit, puis qu'on dérange notre vie. On ne doit pas déranger notre vie, on doit l'arranger, notre vie, l'organiser, la renforcer, notre vie. Mais c'est l'expérience qui nous amène à comprendre ça. C'est l'expérience. C'est avec le temps qu'on en arrive à. Mais au début, ça crée un choc. Moi, je l'ai vécu, le choc. Puis Puis ça, c'est au niveau de la descente de la conscience supramentale sur la Terre, comme Aurobindo en parlait. Moi, je l'explique d'une autre façon. Mais les événements, moi, j'aime pas ça parler des événements de l'avenir, mais les événements de l'avenir, quand ils vont venir, si les gens ne sont pas dans leur intelligence, c'est final, Charlie. C'est final parce que émotivement, psychologiquement, mentalement, intellectuellement, l'homme ne pourra pas subir le choc. Il ne pourra pas. Et c'est ça qui est expliqué dans les textes. Il faut aller plus loin que les textes sacrés. Il faut aller dans l'explication de ce que doit faire l'homme pour lui-même, envers lui-même, pour que quand ça se passera, ça, l'homme pourra passer à travers de ça comme un couteau dans le beurre. Mais ça prend de l'intelligence, puis l'intelligence, elle vient d'où? Elle vient pas de nous autres. Elle descend dans l'homme. Elle s'ajuste sur un plan d'énergie, sur un cinquième principe qu'il possède, qu'on appelle le supramental. Tu veux que je te dise?
On a déjà parlé qu'il y a la volonté, l'amour, l'intelligence. Y en a-t-il d'autres après?
Mais c'est assez pour le moment. Hey, t'as une minute. Quand l'homme commencera à avoir de la volonté, de l'amour, de l'intelligence, les autres principes se manifesteront avant, mais les autres principes aléfiques ne seront pas connus de l'humanité tant que l'homme n'aura pas commencé son évolution jupitérienne. Mais tant qu'il demeurera sur la Terre, la nécessité de former une autre race, qui est la septième race, la race de l'homme-esprit, à ce moment-là, les hommes pourront commencer à comprendre les autres principes qui viennent après l'amour, l'intelligence et la volonté. Mais là, on a plein notre casse, là. On n'a même pas d'intelligence, puis on n'a même pas de volonté, puis on n'a même pas d'amour encore. Fait que commence pas à parler des autres. On vit par réaction.
Dans l'involution, ce qu'on connaît sur la civilisation actuelle, là, c'est le principe de l'involution. Est-ce qu'après, ça va être un revirement, qu'on va être dans l'évolution?
Exactement.
Que tout ce qu'on fait par la souffrance qu'on détruit, après on va le faire par la jouissance et on va construire.
Il n'y aura plus de souffrance. Ça va être la joie de vivre. Ça va être la joie. La joie de l'esprit. Ils me disent tout le temps dans ma tête, moi, quand ils me parlent de ça, la joie de l'esprit. L'homme sera dans la joie de l'esprit parce que l'homme sera dans l'esprit de la terre. Et l'esprit de la terre, c'est la conscience de la terre, c'est-à-dire une dimension vibratoire parallèle à la planète Terre qu'on appelle le monde de la lumière. Et l'homme évoluera dans ce plan-là, seulement l'homme, à cause de sa grande liberté, aura accès à la fois à sa forme matérielle et à la fois à son corps moronciel, jusqu'à temps qu'il soit décidé, en tant qu'individu, de cesser ses activités créatives sur la Terre pour aller continuer sur une autre planète ou dans un autre système. Alors, l'homme aura la capacité de vivre sur deux plans de vie parce que les sept plans de l'homme seront intégrés.
Est-ce que je peux demander à Bernard comment voit-il venir sa mort, comment voit-il la mort, mais la mort sur un plan subjectif, là?
J'en ai pas de plan subjectif. D'abord, je meurs pas, puis j'ai pas l'intention de mourir, puis même que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire sur le plan matériel, à ce moment-là, je changerai la vibration de mon corps pour changer de plan. On appelle ça une mort de translittération. On meurt pas dans la Terre. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme puis à l'intelligence cosmique de mourir dans la Terre. Qu'un corps se désintègre dans la Terre, c'est parce qu'il manque dans l'homme des forces de vie qui doivent être connectées à ses principes inférieurs. Lorsque les principes inférieurs sont en harmonie vibratoire avec ces forces-là, tu peux pas mourir comme tu voudrais. Tout le monde, il y en a un qui me disait, j'avais un de mes chums, puis il me disait, parce que je l'avais bluffé un jour, il disait, donne-moi n'importe quel principe philosophique, n'importe quoi, puis je vais te le détruire, je vais en détruire la forme. Ah, il dit, OK. Un grand bonhomme. Il dit, détruis-moi donc le syllogisme de Socrate. Mais j'ai dit, explique-moi qui c'est que cette affaire-là, là, cet animal-là. Il dit, le syllogisme de Socrate, c'est, moi, je suis un homme, je suis mortel. Non, comment est-ce qu'il disait ça? Tous les hommes sont mortels, moi, je suis un homme, alors je suis mortel. OK, intellectuellement, c'est solide, tu sais, c'est comme un safe. Tout le monde est mortel, moi, je suis un homme, je suis mortel. Puis là, tu sais, de ça, là, il érigeait toute sa philosophie. Bon, j'ai dit, toi, t'es un homme, toi, tu me dis, tous les hommes sont mortels, alors toi, t'es un homme, t'es mortel. Moi, je te dis, tous les hommes sont mortels, moi, j'étais un homme, je meurs pas. Là, il m'a regardé, tout est bêté. J'ai dit, si moi, je te dis que je meurs pas, c'est mes affaires. J'ai bien le droit de te dire si je ne meurs pas. Je te demande pas de me croire. C'est de mes affaires à moi. Si moi, je te dis que je ne meurs pas. Fait que là, ça lui a fait comprendre quelque chose. Ça lui a fait comprendre que l'intelligence dans l'homme détermine la qualité, la nature de son intelligence et apportionne à son intellect les valeurs qui sont contenues dans la forme de son émotion et de son intelligence. Si tu changes de plan vibratoire, puis tu rentres dans le supramental, puis tu rentres dans un autre niveau de conscience qui te permet de comprendre et de concevoir les lois de l'évolution dans un cadre ou dans une optique différente, à ce moment-là, tu as la liberté de dire ce que tu veux. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, mais dire ce qu'on veut, ça ne change pas nécessairement les réalités.
Dire ce qu'on veut, ça ne change rien, mais ça nous permet de dire ce qu'on veut. Tu comprends? Toi, tu peux me dire ce que tu veux. Tu comprends? Moi, je te dis ce que je veux. Fait qu'on est chum. Mais si tu me dis quelque chose, puis tu veux que je te croie, là, c'est une autre paire de manches. Mais tu as le droit de me dire ce que tu veux, comme moi, j'ai le droit de te dire ce que je veux. Puis comme ça, on boit du coke. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas ça que les gens font. Les gens, ils disent ce qu'ils croient, puis ils veulent que l'autre gars le croie. C'est là qu'on commence à avoir des guerres de religion. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, si je veux te dire quelque chose, si tu penses que je suis capoté, ben tu t'en retournes de bord, puis tu t'en vas. C'est tes affaires, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu comprends?
Il y en a plusieurs maîtres. Il y a un maître ici au Québec qui a fait sa marque. Il y a même un organisme qui s'appelle les sciences cosmiques. C'est pas les consciences cosmiques, mais c'est la science cosmique. Madame de Sergerie, il y a à peu près un an exactement, elle disait qu'elle ne mourrait jamais. Et au grand désespoir de tous ses fidèles, elle est morte.
Oui, mais ça, c'est pas de ma faute. Puis à part de ça, moi, j'ai dit à Carmen Loranger qu'elle devait mourir bientôt. J'ai dit, elle savait. Seulement, j'ai dit à Carmen, ne va pas le dire à personne. J'ai dit, entre nous deux, ça. J'ai dit, il faut qu'elle meure. C'est important qu'elle meure, Mme de Sergerie. Puis elle est morte. Fait que, ce qu'elle dit, Mme Sergerie, ça fait partie de son expérience. Tu comprends?
Prenez un peu, c'est parce que de la manière que vous nous dites ça, c'est comme de dire que Mme de Sergerie qui devait mourir, c'était extraordinaire. C'était un être humain comme tout le monde.
C'est un grand aide, Mme de Sergerie.
Oui.
Seulement, c'est important qu'elle meure. Dans le plan de vie de la conscience cosmique sur la Terre, c'est important qu'elle meure parce que, en mourant, elle, ça crée un choc vibratoire au monde, puis ça fait réaliser au monde l'importance de ne pas croire. Comprends-tu? Alors, c'est pour ça que j'ai pris Mme de Ranger en privé, d'ailleurs, quand elle est venue dans un de mes séminaires, puis j'ai dit, je vous en parle, allez pas compter ça à votre monde, pour toutes les énerver. Mais j'ai dit, il faut qu'elle meure bientôt. Elle est morte, bien, bien.
Ça se peut-tu que des fois Bernard dise des choses lui aussi, juste pour faire une impression, pour que ça reste sur un plat, plutôt de l'impression que la forme que ça crée?
Je vais te dire une chose. Quand tu fonctionnes dans la vibration de l'intelligence, dans l'énergie de l'intelligence, ce que tu dis sert tout le temps. Parce que l'intelligence, c'est créatif. C'est créatif, l'intelligence. Moi, j'ai pas de contrôle sur l'intelligence. J'en ai pas d'intellect. Je canalise l'énergie, puis je canalise l'énergie. Puis c'est comme ça que l'homme doit et devra un jour vivre, canaliser l'énergie, être en harmonie vibratoire avec cette énergie-là. Mais faut pas que ton ego soit là. Faut pas que ton intellect soit là, parce que tu la canaliseras pas, tu vas la bloquer. Fait automatiquement, en la bloquant, tu empêches l'homme de réaliser vibratoirement des choses que cette intelligence-là peut rapporter à l'homme par le canal.
Mais tantôt, vous parliez qu'il y en a qui mangent des raisins pour ça, mais y a-t-il une technique, y a-t-il quelque chose qu'il faut faire, qu'on peut faire?
Faire quoi?
Y a-t-il une technique pour pouvoir...
Les techniques font partie de l'évolution, ça fait partie de l'ego spirituel de l'homme. Tu sais, ça fait partie de l'expérience spirituelle de l'homme, ça fait partie de son tempérament, son caractère. Penses-tu que l'homme, en passant d'un plan vibratoire à un autre, c'est en mangeant des raisins qu'il va passer? Voyons, l'énergie créative, c'est cette énergie-là qui va changer les plans vibratoire de l'homme. Si l'homme, dans son évolution, veut manger des raisins, ça fait partie de son expérience, c'est très bon qu'il mange des raisins. S'il veut faire telle chose, c'est très bon, mais ça fait partie de son expérience. Tout ce que l'homme fait dans son évolution, dans le développement de sa conscience spirituelle, c'est très important. Moi, je suis content qu'il y ait des gens qui mangent des raisins, puis je suis content qu'il y ait des gens qui s'accrochent au mur par des clous, puis qui restent là pendant 24 heures, parce qu'il se produit quelque chose en eux autres. Seulement qu'un jour, il va être obligé de comprendre
que ça, ça faisait partie de leur expérience. Mais quand est-ce qu'ils vont le comprendre? Quand la fusion va se faire. Quand la fusion se fait, à ce moment-là, tu comprends tout, parce que tu réalises qu'il n'y a rien à faire. C'est l'énergie. Tout le monde me parle du bon Dieu, puis du bon Dieu, puis du bon Dieu, puis du bon Dieu, puis la force du bon Dieu, puis la puissance du bon Dieu. Puis Christ, quand il s'agit de le vivre, ça, tout le monde retourne à l'impuissance de sa capacité de réaliser que cette énergie-là que lui appelle le bon Dieu, c'est là. Puis quand ça descend, cette énergie-là, ça travaille, puis quand ça travaille, bien, ça fait éclater, puis ça transmute, puis c'est ça. C'est comme les gars qui disent « Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. » Tu sais? Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Faut qu'on en arrive un jour à se décrocher.
Oui, mais si...
Tu peux pas toujours vivre de croyance, puis de croyance, puis de spiritualité, puis de spiritualité. Faut que tu en arrives un jour à pouvoir laisser passer cette énergie-là en toi qui est une énergie créative, volontaire, amour ou intelligence, et qu'elle éclaire cette énergie-là, ton ego. Puis quand elle éclaire ton ego, ben à ce moment-là, tes illusions anciennes qui faisaient partie de ton expérience, qui étaient très bonnes, parce que ça faisait partie de ton expérience, tu peux pas discuter l'expérience de l'homme. Il y a des gens qui font le signe de croix d'une façon, il y en a qui le font d'une autre façon. Puis, il y en a qui vont dire, « Bon, mais tu ne devrais pas le faire de même, ton signe de croix, tu devrais le faire comme ça. » Tu sais? Au lieu de laisser au monde faire le signe de croix comme ils veulent, ça fait partie de leur expérience, ça fait partie de leur tempérament. Quand les gens rentreront dans leur propre intelligence, à ce moment-là, ils ne feront plus rien, puis à ce moment-là, ce sera une autre évolution. Mais il faut que les gens respectent les attitudes temporaires, les attitudes inconscientes, les attitudes spirituelles de l'humanité, des groupes, des individus, des ordres, des églises, des religions. Les gens sont pas capables de voir que tel gars, il a besoin d'aller à l'église le dimanche. C'est bon pour lui, il est rendu à ce stage-là, laisse-le faire. Non, ils veulent tout leur bourrer le crâne là, avec la métaphysique, puis le cosmique, puis le cosmique, puis tout ça. Là. Lâchez-les! Quand les gens seront dans leur intelligence, quand tu rentres dans ton intelligence, qui est une intelligence universelle, t'es pas intéressé à changer le monde. Tu veux bien aimer parler au monde, mais t'es pas intéressé à changer le monde.
Mais
c'est l'énergie qui travaille.
On a quand même une idole en commun, c'est le Christ, le Nazaréen.
On a une idole en commun parce qu'on est des sans-dessins. C'est pour ça qu'on a une idole en commun, puis ça fait encore partie de la religion, puis la psychologie de la religion, puis la psychologie spirituelle. On est des sans-dessins, puis on a toujours été des sans-dessins parce qu'on a été amenés et on a été éduqués à être des sans-dessins par des sans-dessins qui ne savaient pas qu'ils étaient des sans-dessins. C'était pas de leur faute, ça fait partie de l'évolution. Comprends-tu? Les formes se transmettent, se passent, puis ça se passe de père en fils. Tu ne peux pas avoir de l'homme et le pain de passer à son fils. Ce que lui connaît, il fait de son mieux. Les hommes ont fait de leur mieux pendant des siècles de temps, pasteur, il faut qu'ils commencent à comprendre le pays. Le pays, bien, c'est la façon que je l'explique.
Mais le Nazaréen a quand même réussi à le faire, lui, ce passage-là.
Pardon?
Le Nazaréen a quand même réussi, lui, à le faire, ce passage-là, à maintenir son corps en vie à travers...
Ben, le Nazaréen, c'est un initié, c'est un immortel. C'est évident qu'il n'a pas pu trouver... Il n'était pas pour retourner dans l'air. C'est évident. Heureusement qu'il y en a un qui a passé. C'est normal. Mais ce qu'a fait le Nazaréen, l'homme doit... D'ailleurs, il l'a dit. Ce que je fais aujourd'hui, vous le ferez demain. Vous le ferez d'une façon plus grande encore que je l'ai fait. Parce que l'homme sera plus évolué demain que dans ce temps-là. Le Nazaréen, c'est un grand mystique. Le Nazaréen, aujourd'hui, s'il était ici, c'est le président de General Motors. Comprends-tu? Parce que... L'homme, dans ce temps-là, les initiés ont toujours convenu à leur temps. Et les initiés aujourd'hui conviennent à leur temps, puis les initiés dans 2500 ans conviendront à leur temps. Mais nous autres, les hommes, faut qu'on arrête de faire des initiés des dieux. Faut comprendre la place qu'ils occupent dans les gouvernements mondiaux, dans les gouvernements invisibles, dans la galaxie. C'est ça faut qu'on comprenne. Mais on peut pas le comprendre par notre intellect, puis on peut pas le saisir par notre émotion. Faut que l'intelligence nous le rapporte, parce que l'intelligence, c'est universel. Puis après ça, bon, on arrête de faire de l'overtime. Tu veux que je te dise?
Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, maintenant.
J'ai pas commencé encore!
Ouais.
J'ai pas commencé à parler. C'est infini l'intelligence. Comment ça s'appelle? C'est infini l'intelligence. L'homme, faut qu'il la canalise, qu'il la canalise, qu'il la canalise, qu'il la canalise, qu'il la canalise.
En 1982, ça continue. Avec quoi? On commence l'année 1982.
Ça continue tout le temps, je sais pas. Je sais jamais ce que je vais dire, mais je sais que ça va être intéressant. Faut qu'on s'amuse. Faut qu'on arrête de prendre les choses sérieusement. L'intelligence, c'est très très léger, il n'y a rien là. C'est le fun de l'intelligence, parce que c'est créatif. Il faut qu'on se dise constipé. On est constipé pas mal. Ça fait longtemps qu'on mange de la viande.
Est-ce qu'être artiste, ce serait déjà d'être...
Être artiste?
Un artiste est déjà sur l'élan de la manifestation de cette intelligence.
Ça fait toujours... L'intelligence, ça se manifeste à tous les niveaux. Seulement, souvent, elle se manifeste mal. Fait que là, t'es un artiste. Si elle se manifeste bien ou mieux, parce que tes corps sont plus ajustés, bien là, tu es un artiste. Fait qu'il y a des tartistes, puis il y a des artistes, il y a des grands intellectuels, des petits intellectuels, des grands physiciens, des petits physiciens, des grands médecins, des petits médecins, des grands avocats, des petits avocats.
Un gars du Québec qui s'appelle Moïse, qui est monté sur sa montagne avec
ouais.
lui. Il entendait une voix qui lui disait que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse.
Ah, c'est bien important, le discernement. Tu sais, quand je dis « croyez pas », »,« croyez pas ». S'il était venu me voir, Moïse, j'aurais dit « crois pas ». Il n'est pas venu me voir.